Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 23h05 en France, 1h05 ici au Qatar. Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là, Mohamed avec nous, supporter de l'équipe de France et du Maroc. On va finalement inverser, on va parler du Maroc avant le Brésil parce que Hamza Rahmani est déjà là. Il est très impatient, Hamza, bien sûr, de participer au débat concernant le Maroc et son quart de finale. Je rappelle, Hamza, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut.
Je rappelle que jamais une équipe africaine n'était en demi-finale de Coupe du Monde. Donc si le Maroc le fait, ce serait évidemment totalement historique pour une sélection africaine. Quelques petites infos, vous dire que donc Aguerd est très très incertain, pas encore officiellement forfait, mais enfin bon, ça part vraiment mal. Ça sent pas bon. Je sais pas si t'as d'autres infos, Hamza, d'autres infos compo éventuelles.
Le remplaçant de Daguerre, normalement, et on le voit souvent depuis le début de la compétition sur des entrées en jeu, c'est El Yamik, et pas Achraf Dari, le défenseur de Brest, qui est peut-être un petit peu surprenant quand on sait que Achraf Dari a toujours et longtemps été considéré comme le troisième central derrière Saïs et Aguerd, sous Vahid, mais aussi sous Regragui lors des matchs amicaux du mois de septembre. Peut-être qu'il paye ses prestations peut-être un peu plus compliquées ces dernières semaines avec Brest, et c'est donc Jawad El Yamik qui joue en Espagne à Valladolid qui devrait le remplacer en défense centrale.
Avant qu'on rentre sur le terrain sportif, j'aimerais quand même dire un mot de contexte ici. Alors, Royal Air Maroc va affréter 7 vols là dans les heures qui viennent, Casablanca, Doha, pour ramener les supporters. Donc on parlait des 35 000 supporters algériens. Là déjà, il y a une communauté marocaine très forte ici, les travailleurs, tout ça. Donc il va y avoir un stade full Maroc hein, pour ce match face au Portugal. Je peux Mohamed, tu confirmes peut-être toi qui vis ici.
Ouais, je confirme. Ouais. En plus, on a vu les 3 matchs de poule du Maroc plus le 8e de finale. C'était à 90% marocain. Et on attend encore une grosse arrivée de supporters. Ouais.
Et alors, il y a une sorte de solidarité arabe qui se met en place. C'est-à-dire que, en gros, toute la sphère maintenant arabophone est pro-Maroc. La mère du cheikh, du chef de l'État ici, habillée en rouge au match. Enfin voilà, il y a un truc comme ça qui est en train de naître. On voit les drapeaux marocains sur les immeubles ici qui commencent à sortir. C'est assez étonnant.
On sent vraiment une ferveur et une solidarité. On dirait un peu de façade parce que si on regarde l'historique, il y a un peu toujours des soucis entre les pays arabes. Mais là, c'est la beauté du football et sa singularité. Quoi. Il n'y a que le football qui peut unir les nations autour d'un ballon. Et
non, mais surtout, moi, je pense que t'as raison, il y a des conflits politiques extrêmement durs dans le monde arabe, y compris dans les pays du Golfe. Mais ça, c'est des histoires de dirigeants. Moi, je pense que les populations, peut-être que c'est ça. Le foot, il faut surtout pas rester au niveau des dirigeants. Enfin, sinon, on se met une balle dans la tête. Hein. Si on suit ce que nous dit l'Infantino depuis le début de la compétition, on peut plus croire au football. Donc,
comment
il faut
croire
l'Infantino. Il faut plus croire quand même au peuple du football. Et je comprends par contre que les qui je connais pas bien, évidemment, bien ces pays-là, mais j'imagine qu'il y a une solidarité dans les peuples arabes, peut-être, autour de cette compétition-là. Et ça, c'est quand même le fait marquant de cette compète-là, c'est ça, c'est la passion du football dans le monde arabe et la fierté du monde arabe au-delà de toutes les polémiques. Enfin, c'est pas des polémiques d'ailleurs. Hein. Moi, je parle pas de polémiques. Ce qui se passe au Qatar, c'est pas des polémiques. C'est des faits extrêmement graves. C'est une catastrophe humaine. Donc, c'est pas des polémiques, c'est une catastrophe humaine. Mais une fois que la compétition est lancée, il y a quand même cette passion du foot qui est partagée et qui fait quand même quand on est comme nous des observateurs
Stéphane,
extérieurs. À ça, pardon Gilbert, je termine juste, ça fait chaud au cœur de voir ça quand même.
C'était un des arguments de Platini à l'époque. Il disait pourquoi est-ce que le monde arabe n'aurait pas droit aussi à une compétition internationale. Il n'y a jamais de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde.
Alors d'abord, c'est un argument a posteriori parce que je n'ai jamais entendu dire ça avant, hein, Platini. Donc c'était une façon mais c'était intelligent comme il est. Donc c'était une façon habile de retomber sur ses pattes. Mais par contre, c'est un vrai argument. Et moi je suis depuis très longtemps partisan parce que je suis pas, comme beaucoup d'entre nous, souvent allé au Maroc. la Coupe du Monde aurait dû avoir lieu au Maroc. Le Maroc a fait 5-6 candidatures déjà pour la Coupe du Monde. Non, mais chaque fois, ils ont été retapés. Et ça aurait été bien plus légitime.
Ils se sont fait arnaquer, surtout.
Oui, sans doute.
Non, mais ils se sont fait arnaquer parce qu'il y a des Coupes du Monde où ils étaient candidats, où en gros, ils se sont fait passer devant par des pays qui ont donné des valises.
Quand on a vu la candidature de l'Afrique du Sud en 2010, quand on voit le reportage FIFA sur Netflix, on comprend ce qui s'est passé.
Exactement.
Et je pense que le Maroc peut être floué là-dessus.
Mais s'il y avait un pays arabe qui devait l'avoir en priorité, je pense que c'était à l'évidence le Maroc ou l'Égypte, qui est aussi un grand, enfin, d'un autre contexte et tout, mais autre, je ne sais pas d'ailleurs si l'Égypte a déjà été candidate ou pas à l'organisation de Coupe du Monde. Mais l'Égypte 2000, est aussi
pour 2030.
Ils le sont maintenant.
2030, voilà. 2030, c'est la candidature assez folle avec la Grèce, l'Égypte et l'Arabie Saoudite.
Ah oui, ça s'arrive un peu à rien d'ailleurs.
C'est encore un concept.
Alors d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de ça, il y a un truc intéressant. Je n'avais pas prévu d'en parler là, mais enfin, il y a un haut responsable de la FIFA qui a expliqué aujourd'hui que cette Coupe du Monde au Qatar serait sans doute la dernière dans un pays unique. Bon, nous, on a toujours connu les Coupes du Monde dans un pays unique. Et il dit voilà, en fait, maintenant. C'est difficile à supporter souvent économiquement pour un seul pays. Donc le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des candidatures multiples comme États-Unis, Canada, Mexique pour la prochaine. Hamza parlait de ce trio. C'est vrai que c'est improbable. Grèce, Égypte, Arabie Saoudite. Tu te demandes.
Il y a
un
autre trio, Gilbert, qui est totalement improbable. C'est Espagne, Portugal, Ukraine.
Oui, effectivement. Bon, on peut se faire des délires, hein. Je sais pas si vous avez des idées, un petit Norvège, Japon, Pérou, par exemple.
On a posé, je pense que c'est une question qui va maintenant, de toute façon, quoi qu'il se passe, être au cœur des organisations de Coupe du Monde, c'est la question des droits humains, qui a été portée, évidemment, après la catastrophe qui s'est passée au Qatar. Mais là, la prochaine Coupe du Monde, le débat, la Coupe du Monde n'est pas entamée, que le débat a déjà lieu, c'est évidemment la catastrophe écologique que sera une Coupe du Monde partagée entre les États-Unis, le Canada et le. Quand tu nous parles là des avions qui viennent demain du Maroc à Doha, et on le comprend très bien, qu'est-ce que ça va être pour. T'imagines une Coupe du Monde entre l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu dis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce. Voilà. Donc, on a vu au dernier Euro.
Ça reste quand
aussi,
même plus proche que Canada, Mexique, États-Unis.
Ouais, c'est vrai, oui. T'as raison.
Il y a moins de distance, t'as raison.
T'as raison. Mais.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la Coupe du Monde au Qatar, elle a un mérite. C'est d'avoir cette concentration de tous les matchs dans une, entre guillemets, une seule ville. Et franchement,
je pense que ce sera unique dans l'histoire du foot.
L'héritage, il pose quand même question. Moi, je veux bien, évidemment, mais on va évidemment observer de près qu'est-ce que vont devenir ces 10 stades.
Ça c'est dingue.
Ça, c'est complètement.
Là, tu as raison.
C'est surréaliste.
Moi, j'ai appris.
C'est surréaliste.
D'ailleurs, le stade 974. Ouais. Normalement, qui est démontable.
Il est en train d'être démonté. Figure-toi qu'il est pas loin de l'endroit où on habite. Et oui. Le démontage a déjà commencé.
Et il va où alors ce stade ?
On parlait il y a quelques mois d'un stade qui partirait effectivement en Afrique et peut-être en Tunisie. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que si l'Uruguay obtient l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec, je crois que c'est l'Argentine, le Paraguay, il me semble le Chili, ce stade ira en Uruguay.
D'accord. Ah bon?
Non, mais ça pourquoi, voilà. Mais pourquoi pas? Ça, c'est une idée. Ça peut être une idée, se dire.
Non, mais il y a des stades en fait. Tu as raison sur un point là-dessus. Franchement, il y a des stades. Bon, alors, on a parlé longuement du bilan humain de construction des stades. Très franchement, le résultat, il est assez dingue. Parce que les stades, ils sont tous, ils sont fous, ces stades. La tente bédouine géante, là.
C'est mon préféré.
Le stade de Lusail, 80 000 personnes. En France, on n'a pas des stades comme ça, hein. Et après, il n'y aura rien dedans. Le stade est de Education City où se joue les matchs France-Tunisie. Il va être transformé en un stade pour les remises de diplômes. C'est grotesque. Enfin, je veux dire, un stade de 20 000 places pour remettre les diplômes.
Mais les stades en kit, c'est une idée à creuser quand même.
En capacité.
Ouais, ils vont être réduits en capacité. Ouais. Enfin bon.
Plus de moitié, ouais.
Bon, effectivement, il y aura sans doute des éléphants blancs, comme on dit, c'est le terme. Habituel.
Ouais, mais tu sais, ça le problème, de l'héritage des grands événements, c'est un problème qui n'est pas lié au Qatar. C'est ça aussi qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que malheureusement, et c'est pas une bonne raison, c'est pas une raison pour le refaire, hein, mais tu vas en Grèce suite aux Jeux. J'avais fait le sujet sur les Jeux en Grèce.
Catastrophe intégrale.
Alors en Grèce, ça a été une catastrophe avant parce qu'ils ont galéré pour les faire. Ça a été une catastrophe en partie pendant parce que tu avais du mal à remplir les sites et c'est une catastrophe après parce que ça veut dire des friches non utilisées. Donc maintenant d'ailleurs dans les cahiers des charges normalement des Jeux Olympiques, en tout cas, du CIO, il y a l'héritage derrière. Et c'est Londres, parmi les premières candidatures qui ont été les plus fortes là-dessus, parce que, par exemple, le village olympique devient logements sociaux, la piscine olympique...
Londres, c'est l'édition olympique où il y a eu le moins de construction pour les Jeux.
Et la piscine, en fait. Et la piscine olympique aujourd'hui, dans le quartier, j'ai perdu le nom, Gilbert, où on était là pour les Jeux, ce quartier à l'est là, de Londres, est devenu une piscine municipale dans laquelle les gens peuvent aller nager, etc., etc. C'est ça la réalité. Donc effectivement, c'est pas jouable au Qatar, mais t'as raison Stéphane, si on trouve des solutions pour un héritage quel qu'il soit, quitte à ce que soit déplacer les stades ailleurs, pourquoi pas ailleurs d'ailleurs, effectivement, si j'entends en Tunisie ou ailleurs, pourquoi pas. Mais l'histoire des éléphants blancs, comme tu dis Gilbert, et de l'héritage, c'est une prise de conscience récente. On va voir, Paris normalement a la même exigence, les mêmes devoirs que les précédents, et va devoir transférer, on va dire, les activités d'un site pour la population, pour des clubs sportifs. On verra si ce sera le cas.
Bon, Paris 2024, là ils ont une urgence à gérer, c'est déjà de régulariser les gens qui bossent les infrastructures. Enfin bon.
Et puis pire que les éléphants blancs, il y a la situation, pour conclure sur les stades. Je prends un exemple, le Gabon, le stade Omar Bongo qui a été construit pour la Coupe d'Afrique, qui n'a jamais été terminé. Je crois que c'est d'ailleurs Lionel Messi qui avait posé la première pierre de ce stade au Gabon, et qui encore aujourd'hui est totalement laissé à l'abandon. Et comme la Coupe d'Afrique est passée, c'est un stade qui ne sert à rien, quoi.
Alors, bon, maintenant revenons aux sportifs. Hamza, est-ce que, franchement, le Maroc peut le faire ? On a du mal à l'envisager quand même, parce que entre la prolongation, les blessures, l'adversaire qui a été étincelant face à la Suisse, on a l'impression d'un match très déséquilibré, en fait.
Déséquilibré, je pense pas, parce que le Maroc, et le Maroc l'a montré sur cette Coupe du Monde, a montré de grosses certitudes sur le plan défensif. Et une équipe qui concède peu de buts, c'est une équipe qui peut embêter tout le monde. Et une équipe qui concède peu de buts, c'est une équipe qui, on l'a vu comme face à l'Espagne, peut t'emmener en prolongation et au tir au but. Il y a effectivement cette interrogation, comment est-ce que El Yamir va remplacer Aguerd en défense centrale. Moi, la réelle interrogation et le questionnement que j'ai sur cette sélection du Maroc, c'est surtout sur l'aspect physique, puisque le Maroc sort donc d'une prolongation face à l'Espagne. Là où le Portugal va arriver frais, le Portugal a pu reposer quelques joueurs déjà face à la Suisse, et le Portugal surtout avait fait reposer ses cadres lors du dernier match de poule face à la Corée du Sud. Donc physiquement, on aura un déséquilibre, je trouve, assez important dans l'effectif, dans la gestion justement des deux effectifs. Je crois qu'il y a eu 8 changements effectués par Fernando Santos entre le match face à la Corée et le 8e de finale face à la Suisse. Est-ce que Walid Regragui va peut-être tenter quelques nouveaux joueurs? Je pense à Sabiri au milieu de terrain, peut-être à Bourla le Toulousain devant, parce que effectivement, s'il repart avec ce même 11 à l'exception donc du changement en défense centrale, il y a cette interrogation, est-ce qu'ils pourront tenir tout un match physiquement à l'exigence d'un quart de finale de Coupe du Monde?
Stéphane et Florent, votre avis?
Moi, j'avoue que j'ai l'impression que le prime du Maroc est passé, que l'histoire du foot, c'est aussi des progressions marche après marche, et que je vois mal comment le Maroc pourrait s'en sortir, et que même s'ils ont pris, j'ai été un peu surpris par la violence parfois des commentaires d'ailleurs sur le fait que leur
incapacité à stratégie défensive
et leur stratégie défensive. J'ai envie de dire qu'on est dans un tournoi, qu'à un moment donné là il faut observer ce qu'il y a en face et comment tu peux t'en sortir, et que quand on avait analysé le match Maroc-Espagne avant qu'il ait lieu, on s'était dit bah oui, ce Maroc là en jouant comme ça peut embêter l'Espagne. Bon, il l'a embêté assez peu finalement, mais ils les ont bloqués. Je suis pas choqué que ça se passe comme ça dans un tournoi, que tu prennes la solution la plus évidente pour passer. En revanche, la répétition de ces matchs-là, les efforts que ça demande défensivement et les absences liées à ça et la fatigue dont parle Hamza, là je pense que ça fait la diff. Alors à ce moment-là de la compète, pour moi ça fait la diff. Je parle même pas du fait que le Portugal soit brillant ou pas. Là maintenant, ça va aussi jouer physiquement. Et dans ce cadre-là, il faut reconnaître que le Portugal a parfaitement géré sa compète depuis le début. Donc je suis inquiet pour, je suis même un petit peu inquiet pour le Maroc.
Stéphane, ton avis dans quelques instants, et puis on parlera également de Ziyech, sujet récurrent de débat avec Hamza depuis le début de la Coupe du Monde. Et dès qu'on parle de Ziyech, on enflamme les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc de fou. Mais on va pas se gêner pour le faire dans quelques instants. À tout de suite.